some mountains here. Otherwise, what are the characters going to fall off of? And what about stairs? Yodelay.
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Ce soir dans Cause Toujours, tu m'intéresses. Nous recevons Monique Bauer-Lagier et Anne-Cécile Reinemann, femmes contre le nucléaire. Alors, on parlait un peu de nos trajectoires personnelles et ça m'a fait réfléchir aussi à moi, finalement, ma trajectoire personnelle. Comment j'en suis venue à prôner fermement le oui pour sortir du nucléaire. Alors, moi, je suis... C'est pas tout à fait la même trajectoire que toi, parce que moi, alors, je suis scientifique et j'ai même travaillé dans un réacteur. Il faut pas oublier qu'à Genève, il y avait un réacteur à l'école de physique, au boulevard d'Ivoire. Il y avait un petit réacteur qui était là, qui était utilisé pour les expériences. Et j'ai travaillé dans ce réacteur. Et on entrait, on sortait tout le temps de la salle principale où il y avait le cœur du réacteur. Si on prenait un compteur Geiger, ça crachait. Et quelque part, j'étais assez fière. Il y avait une espèce de sentiment de supériorité un peu machiste sur la technique. Je domine cette technique. Et en fait, ma trajectoire anti-nucléaire, c'était plutôt au début de me voir dans le nucléaire une forme d'énergie centralisée, une forme d'énergie étatique qui nécessitait un État fort, un État policier. Et cela, je l'ai très fortement vécu en 77 quand j'ai été à Malville, à la grande manifestation de Malville, où là, vraiment, on l'a vu à l'œuvre, cet état policier, puisqu'il y avait un déploiement de police terrible. Il y a eu un mort, il y a eu des blessés graves. Et là, moi, ça a été une expérience terrible pour moi. Et c'était clairement le nucléaire. Et après, on l'a vu encore dans le procès qui a suivi la manifestation de Malville, où on a vu en jeu un état arrogant qui disait « c'est moi qui commande, point, c'est tout ». Et en fait, j'ai commencé à... Mais c'était pas encore lié au risque. C'était lié au fait à quel état suppose le nucléaire. Et c'est au moment de Tchernobyl que vraiment, tout à coup, ces risques sont devenus palpables ici pour moi, en tout cas. Et je me souviens, c'était le printemps, c'était en avril, j'étais à la campagne, j'étais dans une herbe magnifique, autour de moi il y avait des jardins luxuriants, et tout à coup je me suis dit, mais cette nature, cette herbe, elle est radioactive, je dois partir d'ici, je dois aller dans une maison. Et ça a été incroyable pour moi, cette rupture avec la nature qui toujours a été pour moi, pour beaucoup je pense, surtout pour les Suisses, une amie, quelque chose qui nous ressource, quelque chose où on retrouve ses racines, tout à coup, elle devient... Et penser que l'Ukraine, que des pays entiers deviennent radioactifs, ces bois de bouleau, ces fraises des bois, tout cela n'est plus à notre portée, ça m'a rendu... tout à coup, j'ai vraiment touché le danger, les risques liés au nucléaire.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose là? Vous savez qu'après Tchernobyl, les maraîchers de Suisse ont dû détruire toute une série de récoltes et il y a eu un débat au Parlement parce qu'ils demandaient une indemnisation qui se montait à plusieurs millions. Et finalement, cette indemnisation leur a été accordée. Je voudrais rappeler aussi que le Tessin était particulièrement touché en Suisse. Vous le savez, encore maintenant, on déclare qu'il ne faudrait pas manger des poissons du lac de Lugano plus qu'une fois par semaine. Le lac de Lugano, certaines régions du Tessin ont été très lourdement touchées par les nuages radioactifs, par la pluie radioactive. Et puis j'ai une fille qui a épousé un Suédois, qui a habité quelques années la Suède. Elle est de retour en Suisse actuellement. Mais après Tchernobyl, vous le savez sans doute, on a abattu des milliers et des milliers de rennes qui étaient le bétail principal de nombreux habitants des campagnes suédoises. Et il était interdit de manger ces petites baies qui sont si, si délicieuses et si fréquentes dans les grandes forêts de la Suède. Ceci pour montrer que la radioactivité n'a pas de frontières et que même en Suisse, il a fallu reconnaître, le gouvernement a bien dû reconnaître que la radioactivité avait fait de grands dégâts. Puis je voudrais juste citer encore dans ce que vous venez de dire, pour faire suite à ce que vous venez de dire, que le groupe de Bellerive, dont le président est Sadruddin Agakan, auquel je rends hommage pour son engagement en faveur de l'environnement. Le groupe de Bellerive, qui est composé d'un certain nombre de personnalités suisses et internationales, s'est constitué contre Crémalville parce qu'il estimait justement que le surgénérateur est incompatible avec un système démocratique. Il implique l'emploi de la police et même peut-être un jour de l'armée, à cause des manifestations des citoyens. Et actuellement, il n'y en a plus de ces manifestations, n'est-ce pas? Dans un État aussi centralisateur que la France, les citoyens n'ont rien à dire. Chez nous, ils sont extrêmement préoccupés par ces dépôts de déchets radioactifs. Chez nous, en Suisse, les uns après les autres, les cantons, les unes après les autres, les communes, les refusent sur leur territoire. Et pourtant, il faudra bien en faire quelque chose. Avant tous les événements de Chine, on pensait les envoyer dans le désert de Gobi. Il y avait des tractations avec la Chine. Déjà, il y en a eu entre l'Allemagne et la Chine. Mais maintenant que les événements que vous savez ont eu lieu, on a dû renoncer à les envoyer dans le désert de Gobi. C'est d'ailleurs immoral de produire des déchets et de vouloir les envoyer autre part. C'est à nous de les gérer, mais de grâce qu'on arrête d'en produire, alors qu'actuellement, nulle part au monde, nous ne savons qu'en faire.
Alors, j'ai demandé aussi à Laurence Deona, qui n'a pas pu être ici avec nous dans le studio, de nous expliquer ses convictions antinucléaires. Laurence Deona, qui est journaliste, grande reporter, écrivaine aussi, et qui fait partie aussi de l'association L'Avenir est notre affaire.
Oui, écoute, effectivement, on ne devient pas antinucléaire en un jour. Je crois que ça fait partie des vagues de fond qui petit à petit t'emportent au cours de ta vie. Et moi, personnellement, je suis reporter, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. J'ai couvert de l'Iran au Yémen, j'ai couvert quasiment toutes les guerres du Proche-Orient. J'ai écrit d'ailleurs un livre sur les femmes dans la guerre, des femmes ennemies israéliennes et arabes, que j'ai appelé la guerre à deux voies, et qui m'a valu le prix de la paix de l'UNESCO. Si je te dis ça, c'est pas pour me vanter de ce prix, mais c'est pour te dire que les questions de vie, de mort absurdement donnée, inutilement donnée, m'ont toujours révoltée. Donc le fait de lutter contre le nucléaire et contre la mort du nucléaire, contre les morts du nucléaire, parce qu'il y en a tellement de façons de mourir du nucléaire, allait absolument dans la ligne de mes combats. Et quand on a vu tellement de morts inutiles, de souffrances dans la guerre, comme je l'ai vu, eh bien, tu te révoltes encore plus quand tu vois que dans un pays en paix, on risque par pure bêtise, par pur intérêt financier, parce qu'il ne faut pas rêver, n'est-ce pas, tout vient de là, de mourir soi aussi, et tes enfants aussi, qui risquent de l'être anormaux, car chacun sait que quand on nous lance la tarte à la crème, comme quoi il y a toujours eu des guerres et qu'il y a toujours eu des dangers, et que, comme disait monsieur, je ne sais qui, l'autre jour à la télévision, moi, quand je rentre chez moi dans mon Jura, je risque d'avoir un accident de voiture, c'est d'une mauvaise foi totale, parce que jamais un danger n'a été aussi grand. Je te dirais de plus que depuis que nous sommes allés à Würlingen, je ne sais pas si Françoise Schiappa vous en avait parlé, nous avons eu l'honneur d'être invités à Würlingen, qui est donc l'Institut Paul Scherrer, où notre confédération dépense chaque année 100 millions pour faire soi-disant de la recherche pour les énergies alternatives, mais où nous avons découvert qu'elle n'en donnait que 8% sur les 100 millions. Mais quand on a visité cet endroit et que tout à coup, après qu'on nous a expliqué de long en large et en travers combien nos déchets radioactifs étaient bien enfermés comme des petites mouches dans du béton, et qu'en traversant une cour, tu vois une sorte de garage à bicyclette, de la tôle ondulée ouverte à tous les vents et des fûts là-dessous, empilés, et tu demandes négligemment. Ah, mais sont-ce les fûts de haute radioactivité? Oui, oui, ils sont là, stockés, en transit. Eh bien, je dois dire que ça m'a donné un peu le vertige. Et quand j'ai parlé au physicien qui nous guidait et qui était censé nous dire, nous chanter la gloire du nucléaire, qu'est-ce qui se passerait si une bombe tombait, ou même un accident d'avion tombait sur cette centrale? Il m'a dit, effectivement, ce serait l'horreur. Il l'a reconnu lui-même. Mais je m'écarte un peu, mais je veux dire, plus j'ai approfondi le problème, plus j'en étais persuadée. C'est ça qui est vertigineux. C'est quand même la première fois dans l'histoire qu'une arme ou qu'un chauffage, disons, qu'une énergie, quelle qu'elle soit, risque de déformer complètement la génétique de toute une planète. Et moi, je trouve ça absolument vertigineux. Et moi, ce qui me choque aussi comme pacifiste, c'est que je les mets aussi en parallèle. Ce sont deux domaines, le nucléaire et l'armement, qui sont entourés d'un silence, mais d'une hypocrisie monstrueuse. Ils ont ça en commun, tous les deux. Ils se donnent la main, ce sont deux jumeaux, n'est-ce pas? Or, ces messieurs, et quelques dames, hélas, se trompent tellement en croyant quoi? Est-ce qu'ils vont vivre dans une bulle s'il y a une catastrophe? Est-ce qu'ils seront assis dans une boule sur leur million? Mais quand il n'y aura plus rien à acheter, qu'est-ce qu'ils achèteront? Au milieu d'un désert, je crois qu'il vaut mieux avoir une goutte d'eau qu'un million de dollars. Et je crois que c'est un raisonnement que même un enfant de 10 ans comprendrait. Et moi, ce qui me choque toujours, ce contre quoi j'ai essayé de lutter à propos de l'armement et de la guerre, ce que j'étais démystifiée, eh bien, c'est cette colossale hypocrisie. Parce que, comme dans tous les deux cas, que ça soit la guerre, ou que ce soit le nucléaire, j'entends l'importance de la chose est complètement déformée. Si vous voyez combien, d'où part une guerre, regardez Saddam Hussein, une petite histoire de quelques kilomètres carrés. Et d'où part le raisonnement nucléaire, c'est la même chose, puisque nous savons très bien, je ne veux pas refaire tous les calculs au micro, mais qu'en fait on nous prône que 40% de notre énergie dépend du nucléaire, or que maintenant, nous l'avons prouvé par des chiffres, c'est un 8%. Donc tout ça, l'armement et le nucléaire vivent dans la plus totale hypocrisie, où on déforme complètement des faits.
Alors, tu fais partie de cette association des femmes contre le nucléaire. Est-ce que tu penses que les femmes ont quelque chose de particulier à dire sur le nucléaire ou sont particulièrement sensibles à ça?
Moi, je crois que, en général, les femmes sont plus sensibles au pacifisme et à l'antinucléaire. Je m'avance peut-être beaucoup, mais il y a aucune. Quand vous êtes journaliste et que vous écrivez des livres sur ces thèmes, vous voyez bien qui vous écoute, vous voyez bien qui vous écrit, vous voyez bien qui vous soutient. Eh bien, 99 fois sur 100, ce sont des femmes. Donc, au fond d'elles-mêmes, elles sentent parfaitement bien que c'est elles qui donnent la vie et qu'elles sont flouées quelque part, parce qu'on ne leur demande pas leur avis. Et quand j'ai fait cette enquête sur les femmes dans la guerre aussi, c'était bouleversant de voir que même les mères de héros qui brandissaient des pancartes et qu'on utilisait d'une façon abjecte, quand on était avec elles quelques heures, eh bien, elles voyaient bien que derrière la mère du héros, eh bien, il y avait la mère flouée, la mère dont on s'était moqué au fond. Mmh. Vous êtes en train de vous faire avoir. Vous n'avez pas voix au chapitre et on est en train d'empoisonner, sinon vos vies, du moins celles de vos enfants. C'est ça que je leur dis. Faites attention. Votez, allez voter par pitié. Allez voter trois fois oui.
Tu penses que les femmes sont plus prêtes à écouter ça, ce message?
Oui, sincèrement, je crois qu'elles sont plus prêtes à écouter ce message. Parce que je suis sûre que les femmes qui écoutent les paroles de paix de mes femmes dans mon livre, elles sont les mêmes qui écoutent aussi les paroles de bon sens et de survie, parce que je crois que les femmes veulent survivre. Et d'ailleurs, dans ces films soviétiques et dans tous ces témoignages qu'on a eus, les hommes glosaient toujours. Et je glose et tu gloses et je reglose et tu me regloses. Et par contre, les femmes parlaient du fond des tripes. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on leur donne si peu la parole entre nous dans ce cher pays. C'est qu'on sait très bien qu'une femme risque de parler avec ses tripes. Et la Suisse est un pays qui a peur de ses propres tripes, qui a peur de ses propres passions. La Suisse est un pays qui a peur de la passion.
Pour en revenir au débat sur le nucléaire, Pourtant, on a vu naître un groupe de femmes pour le nucléaire qui nous vantait tous les bénéfices que l'électricité apportait à notre... Comment l'électricité soulage notre travail et que finalement, en dehors de cette fée électricité, on en serait encore à rester esclaves de notre cuisine comme l'ont été nos grands-mères.
Bien écoutez, ces femmes pour le nucléaire, figurez-vous que nous les avons rencontrées à Bürelingen. Puisque à travers l'association les sociétés féminines de Suisse, c'était elle qui nous avait invitées. Et alors nous nous attendions effectivement à trouver une armée, si j'ose dire, de femmes bien informées, avec des arguments massus. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé un groupe de dames qui ne savaient absolument pas de quoi elles parlaient. Et je peux vous dire que lors du colloque dit débat qui a eu lieu, il n'y a eu aucun débat, puisque je peux vous dire que les seuls arguments pour le nucléaire qui ont été donnés sous forme de phrases extrêmement agressives, puisqu'une dame a dit à Madame Anne Petitpierre, qui était venue donc prouver par A plus B, elle l'a fait remarquablement, d'une façon éblouissante, qu'on pouvait laisser tomber le nucléaire et en survivant parfaitement bien sur le plan énergétique. Eh bien, cette dame lui a dit, tenez-vous bien, c'est triste à dire, puisque pourtant j'aime les femmes, je suis féministe. Enfin, Madame Petitpierre, vous avez quand même utilisé un micro qui utilise de l'électricité pour nous parler. Ce qui était vraiment très, très pauvre.
Je crois savoir que la présidente de ce groupe est liée relativement de près à la CEDRA.
C'est la femme de M. Wissler, exactement, directeur de la CEDRA. Et puis, moi, ce qui nous a beaucoup frappé, nous qui depuis des années luttons contre le nucléaire, et qui savons de quoi nous parlons, c'était de voir que, comme par hasard, ces femmes pour le nucléaire sont nées comme ça, comme des champignons au printemps, juste avant les votations. Et moi, je peux vous parier qu'après les votations, elles s'endormiront sous les neiges de l'hiver. Oui, au cours de ce colloque, Madame Vrenisch-Perry, conseillère nationale, qui était là pour soutenir les troupes des femmes pour le nucléaire, nous a dit des paroles qui sont restées vraiment gravées dans ma mémoire. Madame Vrenisch-Perry a beaucoup de chance. Elle est la seule sur la planète Terre qui a trouvé une solution pour les déchets radioactifs. Elle nous a dit que de toute façon, on avait déjà trouvé toutes les solutions. Et quand on pense qu'il y a des grands savants qui se passent des nuits blanches sur ce problème dans le monde entier, moi, j'étais très contente pour elle, qu'elle soit seule de son espèce. Mais remarquez qu'elle a quand même reconnu qu'il risquait quand même d'avoir un accident en Suisse parce que l'homme n'est pas parfait. Qui l'eût cru? Mais elle nous a aussi assuré qu'un Tchernobyl ne pouvait pas arriver en Suisse. Et qu'en ce qui concerne les déchets radioactifs, je voudrais rappeler justement... ce que je trouve aussi scandaleux, c'est qu'on les exporte dans les pays pauvres ou dans les régions pauvres. Et l'autre jour, j'ai vu une de mes amies qui travaille justement avec Nairobi, où il y a le centre mondial écologique, comme vous le savez, et qui m'a raconté qu'elle avait rencontré à une de ses séances, à Nairobi, un tout petit monsieur, tout noir dans un coin, qui disait rien du tout, et qui, après qu'elle se soit exprimée, est venu vers elle et lui a dit « Écoutez, madame, je viens de la Gambie. » Et figurez-vous qu'il nous est arrivé une histoire incroyable. Un pays d'Europe nous a envoyé en cadeau pour le tiers-monde des briques pour construire nos villages. Et gratuitement, on était tous heureux. Et puis moi, qui m'occupe beaucoup des logis, comme ça, j'ai une sorte de soupçon. Et alors, j'ai mis des compteurs sur ces briques. Elles étaient toutes radioactives. Et nous avons découvert que c'était des briques de la démolition d'une centrale nucléaire qu'on nous avait offerte.
We should put some mountains here. Otherwise, what are the characters going to fall off of? And what about stairs? Yodelay.
Radio Pleine Lune 93.8 de MHz. Nous venons juste d'entendre Laurence Deona, écrivaine et journaliste, qui nous parlait de comment elle, pour elle, comment elle est fondée sa conviction antinucléaire. Alors, vous êtes toutes les deux très actives, Monique Bauer-Léger et Cécile Reinemann, dans des groupes pour essayer concrètement de sortir du nucléaire. Alors, Anne-Cécile, toi, tu fais partie de Contre-Atome.
Oui, alors moi, ma lutte, disons, effective contre le nucléaire date aussi de 1977 dans les manifestations contre Malville. Et là, évidemment, pour la première fois de ma vie, j'ai vu la guerre. Forcément, j'avais jamais vu de guerre, mais j'ai vu sur le terrain la guerre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais tout à fait opposée donc, à la radioactivité aux centrales nucléaires, mais que c'était pas mon truc de faire la guerre. Donc, je cherchais ma voie pour que mon opposition devienne utile. Je cherchais une manière de m'exprimer. Et dans toutes les situations de la vie, en général, face aux problèmes, je m'en suis sortie grâce à l'humour et en fait à ma joie de vivre qui prenait toujours le dessus en cas de difficulté. Et alors évidemment, dans l'opposition au nucléaire, on trouve des gens très sérieux qui font les colloques, qui font les réunions. On trouve des manifestants, donc dans le fond, qui se battent souvent physiquement. Et moi, je cherchais ma voie. Et alors donc, j'ai trouvé donc ce groupe de Contre-Atome qui m'a vraiment, c'est-à-dire au sein duquel je me sens vraiment utile parce que je peux utiliser peut-être mon sens de l'humour en faisant des panneaux.
Il faut peut-être rappeler ou peut-être le dire pour ceux qui ne le savent pas et celles qui ne le savent pas que c'est toi qui produis ces magnifiques slogans qu'on voit fleurir.
J'ai une grosse écriture de maîtresse d'école bien nette.
Alors dis-nous quelques-uns de ces slogans. Moi je me souviens de Malville, fuite et fin.
Oui, alors tout dernièrement, donc on a organisé un enterrement pour cette centrale qu'on espérait bientôt, enfin à l'article de la mort, c'est-à-dire bientôt enterrée, mais ça n'a pas l'air de s'arranger vraiment. Alors j'étais déguisée en veuve éplorée et je tenais à la main un panneau qui disait un enterrement coquin pour un surgénérateur à pépins. Il y avait le célèbre Malville égale sodium et Gomorre avec Gomorre, Go, M-O-R-T. Voyons voir.
Il y en avait sur le plutonium, mais je ne me souviens plus. Plutôt.
Voyons voir le dernier truc. On avait mis à Malville. Tédéum du plutonium, c'est le tédéum du plutonium, ça c'était pour la dernière manif. Enfin, chaque veille de manif, moi je passe la nuit, c'est-à-dire ça me vient comme ça. Je suis prise dans le bain du sujet d'actualité et puis je produis ça. Enfin, je passe la nuit à produire des écriteaux, des petits panneaux qui sont toujours nouveaux et qui sont en fait toujours bien repris parce que dans les journaux, les grands slogans, sur les photos, c'est toujours coupé. Tandis que ces petits écriteaux, ils ressortent toujours. Chaque fois qu'il y a un article sur le nucléaire, on voit ces petits panneaux jaunes et ça donne. Alors moi, j'adore lutter de cette manière-là. Et puis je pense aussi que la essayer de convaincre les gens qui nous côtoient d'une manière, c'est-à-dire en parlant, je fais un peu un travail de comme les témoins de Jéhovah qui vont parler aux gens, mais je crois qu'avec enthousiasme et quand on croit vraiment à la chose qu'on défend, on arrive à convaincre énormément de monde. Et je peux dire que tous les gens qui m'aiment sont devenus antinucléaires, c'est-à-dire je crois beaucoup à la force de persuasion, mais par l'individu, c'est-à-dire que les grandes choses écrites, ça, mais je crois que c'est très très important de convaincre. Et par exemple, moi je suis maîtresse d'école, bon alors le fait d'avoir des enfants, j'ai pas d'enfants moi-même, mais le fait de vivre sans arrêt avec des enfants, c'est-à-dire de se rendre compte que tous les problèmes du nucléaire, ça va être des choses qui vont atteindre les générations futures, c'est-à-dire être en contact sans arrêt avec ces gamins, ça m'a vraiment renforcée dans mon action et je pense que tous mes anciens élèves, tous les parents de mes élèves, simplement en me côtoyant, je suis sûre qu'ils ont épousé cette lutte.
C'est bien.
Monique Boyer-Légier, vous faites partie, comme Laurence Deona, de ce groupe « L'avenir est notre affaire », des femmes contre le nucléaire. Alors, je vous pose la même question que j'ai posée à Laurence Deona. Vous pensez que les femmes sont particulièrement sensibles au problème du nucléaire ?
Oui, je le crois. Et actuellement, les critères économiques à court terme dominent dans le débat politique. Il y a une telle imbrication des milieux économiques et des milieux politiques que c'en est parfois accablant. Par contre, les femmes, qui sont très peu nombreuses au Parlement, comme vous le savez, même si, comparées à d'autres pays, elles le sont relativement, je crois que c'est environ 14% actuellement en Suisse, mais c'est donc encore misérable, 20 ans après l'accession des femmes aux droits politiques et aux droits d'éligibilité. Et les femmes, elles, sans négliger pour autant les critères économiques qui doivent être pris en compte, c'est incontestable, estiment que les critères humains, les critères sociaux, les critères éthiques doivent être mieux considérés. Et pour elles, le moyen et le long terme ne sauraient être oubliés. Et j'ai pu me rendre compte justement de ces femmes, je citais deux associations tout à l'heure, la Fédération des consommatrices. Je pense également à la Fédération des femmes protestantes, que je connais bien, qui de nouveau cette année vient de prendre position en faveur des initiatives et demande de voter 3 fois oui, tout comme les églises. Et je voudrais souligner l'engagement maintenant des églises. Vous le savez, au Rassemblement œcuménique européen de Bâle, qui a réuni 700 délégués de toutes les églises chrétiennes d'Europe, plus 7000 personnes qui sont venues assister un jour, deux jours ou toute la semaine à ce Rassemblement œcuménique européen de Bâle l'an dernier. Des positions ont été prises très fermes contre l'énergie nucléaire, qui n'est pas compatible avec les sentiments de responsabilité qui doivent animer tout être humain de bonne volonté, homme ou femme. Mais il est vrai qu'on a le sentiment que les femmes sont plus sensibles aux arguments éthiques, aux arguments humains, aux arguments sociaux. Les médecins aussi se sont engagés, je voudrais le souligner. J'ai récemment eu affaire à plusieurs reprises avec les médecins pour la protection de l'environnement. Ils se sont constitués en association il y a quelques années seulement. Ils ont rejoint les Physicians for Social Responsibility, qui est une grande association qui compte dans le monde des dizaines et des dizaines de milliers de médecins. Je crois qu'on me disait même quelques centaines de milliers. Il y a une section en Suisse depuis 10 ans environ. Ces médecins contre la guerre nucléaire, pour la protection de l'environnement, dont plusieurs se sont rendus à Tchernobyl récemment, ont pris position en faveur des 3 initiatives. Ils recommandent de voter le oui. Et puis je citerai pour terminer la communauté œcuménique de travail pour l'environnement, qui regroupe des catholiques et des protestants. Le père, Monsieur Pius Hafner, représente les milieux catholiques, notamment Justitia et Pax. Lucas Fischer, qui était autrefois au Conseil œcuménique et qui est actuellement le responsable de l'œcuménisme en Suisse. Il est délégué en quelque sorte des églises, de la Fédération des églises protestantes de la Suisse. La côté communauté européenne, œcuménique de travail pour l'environnement a pris très fermement position en faveur des 3 initiatives. Il est temps de mettre un terme à cette fuite en avant qui témoigne d'une irresponsabilité totale. Il est temps de réfléchir, il est temps de consacrer plus de fonds aux économies d'énergie et aux énergies renouvelables.
fait.